Dans cette édition, on ira à Rurutu, où nous avons suivi le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. On vous parlera des éducateurs spécialisés, diplômés d'État, mais toujours sans diplôme. Et pour terminer, cet exploit de Kélia Galina, 12 ans et demi, est qualifié pour la Tahiti Pro. Le journal, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et on commence avec cette opération séduction aux Australes.
Et oui, séduction du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, arrivé à Rurutu hier, dans la foulée de ses déplacements à Hivaoa, Rangiroa et Morea. Comme à chaque étape, la commune et même tout l'archipel, dont certains Tavana ont fait le déplacement, ont mis les petits plats dans les grands, sortis les meilleurs danseurs, chanteurs, Maa et en l'occurrence leurs plus beaux chapeaux. Mais cet accueil festif ne doit pas faire oublier que les élus locaux ont des messages importants à faire passer au ministre. Charles René, vous êtes sur place.
Oui, Lucie, vous l'avez dit, Rurutu a réservé un accueil royal à l'ancien Premier ministre. On croise tout autour de l'île des portiques aux fanions bleu, blanc, rouge et dressant des messages d'accueil à Manuel Valls. Les Toere et les Imene résonnent à chaque étape et malgré tout ce faste, le déplacement était très vite entré dans le dur de la politique hier. Avec cette longue liste de demandes d'aide et de subventions présentées au ministre dès sa sortie de l'avion par Frédéric Rivetta. Les Australes sont les parents pauvres de la République, avait lancé le Tavana, suggérant en creux que ni le pays ni l'État n'apportaient un soutien à la mesure des besoins de ces îles isolés et qui peinent à retenir leurs jeunes de l'aimant tahitien. Discours carte sur table, donc c'est comme ça qu'on fait aux Australes, mais les élus locaux ont ensuite développé leur argumentaire au fil de la visite, d'abord en montrant qu'ils avaient des ambitions en matière environnementale et énergétique notamment, et qu'ils savaient faire avancer des dossiers. Les panneaux photovoltaïques se multiplient sur les toits des infrastructures publiques, Rurutu veut être la première en Polynésie à prendre en charge les boues de fosses septiques qui polluent la terre jusqu'à Tahiti, et ça n'est là qu'une partie des projets, Lucie.
Et la deuxième phase de l'opération séduction, elle a commencé dans la soirée d'hier en mettant en avant les richesses culturelles et naturelles de l'île.
Et oui, Manuel Valls a eu le droit à un Heiva sur mesure où il a été couvert de tifaifei et de vannerie locale et où il s'est prêté au jeu des danses traditionnelles. Il n'avait pas vraiment le choix. À peine remis de la fête, il est parti en mer tôt ce matin à la rencontre des baleines qui sont déjà au rendez-vous à Rurutu. Puis il a pris le chemin de la grotte Ana Eo, la fameuse grotte François Mitterrand qui était venue en visite voilà plus de 30 ans. Forcément un moment d'émotion pour l'ancien élu socialiste qui a commencé sa carrière sous le mandat de l'ancien chef d'État. La visite se poursuit actuellement dans les taraudières de Havera avec toujours le même message des élus et maires des Tuapé. L'archipel a du potentiel, mais il faut investir, soutenir les collectivités pour le révéler. Frédéric Rivetta parle notamment d'ateliers de transformation agroalimentaire, de labels artisanaux et même d'une nouvelle marina, pourquoi pas remplie à terme d'une flotte de palangriers. Tout un programme, Lucie.
Et au milieu de toutes ces visites, Rivetta a aussi fait une demande portée depuis toujours, mais jamais encore exprimée aussi clairement. Il veut des lignes régionales directes avec les Cook. Frédéric Rivetta qui rappelle que Rimatara n'est qu'à 50 minutes de vol de Atiu. Quant à Rurutu, elle se trouve à 1h30 de Rarotonga. Ces îles partagent famille, projets environnementaux et aussi une longue histoire commune. Et puis des lignes directes avec les Cook, ce serait l'occasion d'attraper des touristes australiens et néo-zélandais. On écoute le maire de Rurutu.
D'abord, ce sont nos voisins, ce sont nos cousins et nous avons des similitudes, nous avons de la famille également. Et puis deuxième chose, ça nous permet aussi de drainer cette manne touristique qui arrive d'Australie, de Nouvelle-Zélande, qui vient aux îles Cook et qui pourrait faire venir, on pourrait le faire venir ici. Quoi.
Un projet qui n'a pas emporté beaucoup d'enthousiasme parmi les officiels présents. Les Marquises, qui demandent depuis de longues années l'ouverture de vols vers Hawaï pour des raisons similaires, savent que c'est un projet complexe et beaucoup doutent de la viabilité économique de telles lignes régionales.
On a aussi parlé nucléaire ce week-end avec le ministre des Outre-mer.
Il était cette fois à Rangiroa et il a été interrogé sur ses échanges avec les membres de la mission Aller Vers, une mission qui depuis fin 2021 sillonne les archipels pour informer et accompagner sur les dispositifs d'indemnisation des victimes des essais. Manuel Valls a expliqué que toute la transparence doit être faite. Il a parlé d'une histoire qui pèse et qu'il n'y a absolument rien à cacher. Avant de partir à Tahiti, il avait d'ailleurs reçu officiellement des mains de Mereana Red Arbelo le rapport de la commission d'enquête sur le nucléaire.
Elles donneront lieu à une proposition de loi qui sera débattue, ça c'est de l'initiative de l'Assemblée nationale, dans quelques mois. Le gouvernement sera très attentif à ces travaux. Le ministère de la Défense, comme d'autres départements ministériels, s'est déjà engagé à mettre en place les préconisations qui ne passent pas par la loi, là aussi je crois. Sans démagogie, bien sûr, avec un souci de vérité, d'efficacité, et pour répondre aux attentes des Polynésiens. Dès qu'on cache quelque chose, dès qu'on donne le sentiment de vouloir se dérober à ses responsabilités, on crée les conditions de la méfiance.
Manuel Valls, donc, qui assure que l'État sera au rendez-vous concernant l'étude de cette loi basée sur les conclusions du rapport, et il rentre cet après-midi à Tahiti. Il doit rencontrer les forces de l'ordre, l'occasion de parler de trafic de drogue et d'ICE, un des thèmes très attendus du déplacement qui se termine mardi soir.
Utiliser l'intelligence artificielle pour éviter les collisions entre baleines et bateaux, c'est une première mondiale.
Et oui, Ocean IA est un projet pilote qui a été présenté samedi à Moréa au ministre des Outre-mer. C'est l'association Oceania qui avait déjà initié un programme d'observateurs sur les navettes entre Tahiti et Moréa. Et aujourd'hui, il s'agit d'automatiser ces alertes. Alors comment ça marche? On écoute Anaïs Pierre.
Ocean IA qui va être l'implantation de caméras équipées d'intelligence artificielle à terre sur les hauteurs des îles pour observer la passe de Vaiaré et de Papété, détecter la présence de baleines et envoyer un message automatiquement au capitaine. 2025, c'est la phase pilote. On va avoir autant l'apprentissage de l'intelligence artificielle que justement la concertation avec les capitaines de ferry pour décider du meilleur canal de communication, SMS, un message VHF ou alors une tablette ou un écran sur leur tableau de bord.
Et c'est une première mondiale. Un système un peu similaire a été mis en place au Québec. Il s'agit là-bas de détecter les bélugas, mais ce n'est que de l'acquisition de données. Il n'y a pas d'action pour prévenir les accidents. Le projet Ocean IA doit donc alerter. Et si les caméras sont posées pour surveiller les passes, c'est parce que l'association a vu que c'était là le plus gros risque d'accident.
Toutes ces observations qui ont été faites pendant 8 ans ont permis en fait de définir qu'à 2 km aux abords des passes, donc à partir de 2 km jusqu'à la passe, c'est là où il y a le plus haut risque de collision. C'est surtout quand il y a maman-bébé, elles vont rester proches des récifs et elles vont rentrer dans les lagons pour vraiment se protéger, par exemple des prédateurs, se reposer. Je sais que c'est un peu difficile à dire, mais il faut prendre ses responsabilités. Et l'approche par bateau amène un stress. Ne pas couper leur route et vraiment s'écarter au mieux, ça veut dire pas non plus mettre le moteur à fond et partir.
Et après cette phase pilote, il sera aussi décidé s'il faut placer des caméras sur les navires eux-mêmes. Ce projet est cofinancé par le programme Best Life 2030 de l'Union internationale pour la conservation de la nature et par l'Union européenne.
Et Lucie, on revient sur ce pataquès administratif encore inexpliqué pour les éducateurs spécialisés.
Et oui, on vous en parlait vendredi, ces éducateurs spécialisés qui attendent depuis 4 ans de recevoir leur diplôme d'État avec grade de licence. Leur représentant est Christophe Psychogios du syndicat de la fonction publics ont été reçus vendredi soir par un membre du cabinet de Manuel Valls et ils sont ressortis du rendez-vous un peu sur leur faim. Ce dossier bute sur les modalités d'une réforme qui date de 2018 mais qui n'a pas été correctement appliquée pour les élèves polynésiens. Cette réforme prévoyait que ce diplôme d'État soit reconnu au grade de licence. Or, personne ne trouve trace de la convention entre les écoles de la Croix-Rouge qui dispensent cette formation et une université française qui soit habilitée à décerner ce grade. Autre obstacle, les diplômes des formateurs. On écoute Christophe Psychogios.
Ce qu'on a comme information, c'est qu'en fait, ils ont encore besoin de documents. Le problème à l'heure actuelle pour la régularisation, c'est la capacité de l'école à fournir les diplômes des formateurs et également au centre de référence, donc qui est en Provence, à la Côte d'Azur, de fournir la convention qu'ils avaient avec une université pour l'attribution du grade de licence. Parce que pour le coup, la formation était pilotée par l'école de la Croix-Rouge de la région PACA, qui elle avait un agrément. Et donc en fait, pour le moment, il y a tout un pataquès administratif à régler.
Voilà, la conseillère du ministre s'est engagée à mettre de l'huile dans les rouages pour essayer d'accélérer les choses et à fournir aux anciens élèves qui en ont besoin, par exemple pour chercher un emploi ou un concours, une attestation pour justifier de leur grade de licence. Mais cela ne règle pas le problème de base de ces domaines de compétences partagés entre le pays et l'État.
Et on finit avec cet exploit d'une jeune surfeuse, seulement 12 ans, et qualifiée pour surfer sur la Tahiti Pro.
Et oui, une épreuve du championnat du monde à 12 ans, enfin bientôt 13, ça sera au mois d'août son anniversaire. Un sacré exploit signé de Kelia Galina ou Miss Teahupo, comme elle est surnommée. Ce matin, impossible de l'avoir directement au téléphone, elle était au spot depuis 2 heures. Et sa mère avouait ne pas savoir à quelle heure elle reverrait sa fille. Tant qu'il y a des vagues, elle est à l'eau et le spot du PK0 était visiblement joli ce matin. C'est donc sa mère, Fleurette Orbeck, qui est revenue sur l'exploit de sa fille.
Nous, on est vraiment, vraiment contents pour elle. Moi, j'y croyais pas. Hein. Déjà, je lui ai dit quand elle est passée en demi-finale, je lui avais dit, tu sais, tu as déjà tout gagné. Hein. Pour moi, c'est déjà une championne. C'est jusque là en demi-finale. Et je pense qu'elle aussi, elle n'y croyait pas. Elle a surfé comme elle sait surfer à chaque fois. Et ça a marché, c'est passé. Et voilà, elle a n'arrive pas à y croire, et moi non plus. Et ben voilà, on y est, elle va surfer contre ses idoles, en fait. C'est ça qui est incroyable.
Et dès ses 4 ans, elle a surfé la vague de Tehahupo, mais c'est d'abord à l'embouchure qu'elle a eu ses premières glisses. Son père, Ryan Galina, hawaïen passionné de surf, c'est lui qui l'a mise à l'eau toute petite. Il a voulu transmettre sa passion et sa culture du sport à sa fille.
Elle est née, elle a grandi à Tehahupo essentiellement, elle ne connaît pas ailleurs. Et ben devant la maison, on a des belles petites vagues à l'embouchure, à la plage. Donc c'est comme ça en fait qu'on occupait ses journées quand elle était petite et qu'elle n'allait pas encore à l'école. Voilà, c'est venu vraiment très naturellement. Hein. Voilà, on était toujours à la mer.
Et à force d'y aller tous les jours, elle est devenue très forte. Mais côté compétition, ses parents ne veulent pas brusquer les choses. Il y aura sans doute quelques QS dans l'année à venir, mais ce sera à elle de décider si elle veut se lancer ou non. Et pour ceux qui s'inquiètent de voir une fille si jeune dans cette vague impressionnante de Tehahupo, sa mère prévient, si la houle est trop grosse au moment de la compétition, elle se mettra à l'eau mais ne prendra pas de vague. Ils suivent la réglementation, pas d'obligation à surfer mais obligation d'aller à l'eau. Mais si la houle est tout comme il faut, alors c'est sûr qu'Elia n'hésitera sans doute pas. Et côté garçon, c'est Mihimana Brahe qui passe sur ses trials. On retrouvera aussi Kaolivast et Vahine Fierro qui tous les deux ont été invités sur l'épreuve du CTC sans passer par les trials. La Tahiti Pro, ce sera donc du 7 au 20 août prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup, Lucie.